Bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un truc qui fascine autant qu'il interroge. Comment on passe de simples 0 et 1?
Oui, la base de tout en informatique.
Exactement. Comment on passe de ça à l'intelligence artificielle qui crée des images, qui discute avec nous? C'est quand même fou, non?
Ah, c'est clair, le saut paraît immense.
Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce cheminement, démystifier l'IA, si on peut dire. Et pour ça, on va s'appuyer sur le contenu vraiment très riche d'une conférence donnée par Olivier Nalis.
Oui, l'IA, du binaire au modèle de langage et d'apprentissage. C'est une super base.
C'est ça. On va suivre un peu son parcours, l'histoire, le binaire, les données, l'apprentissage machine, les réseaux de neurones et bien sûr les fameuses LLM. Tout un programme.
Et c'est un programme vraiment pertinent, surtout, je pense, pour un public enseignant.
Ah oui, pourquoi spécifiquement?
Ben, parce que ces technologies, elles sont partout maintenant, dans les outils qu'on utilise, dans ce que font les élèves. Comprendre un minimum comment ça marche, même les grandes lignes, c'est essentiel pour mieux s'en servir, pour voir le potentiel, mais aussi les limites, quoi.
Alors, on commence par le début. L'histoire. Le mot algorithme, ça vient d'où déjà?
Ah, ça remonte. C'est Al-Khwarizmi, un mathématicien persan du 9e siècle.
Le 9e siècle. Incroyable. Et le binaire, les 0 et 1?
Ça, c'est plus tard, fin 17e. C'est Leibniz. L'idée géniale de traduire la logique, le vrai-faux, en langage mathématique binaire. Zéro pour faux, un pour vrai.
Mais avant l'électricité, il y avait déjà des tentatives de machines programmables?
Carte perforée. L'idée de donner des instructions à une machine, elle est ancienne.
Et puis Boole aussi, avec l'algèbre binaire.
Exactement, Georges Boole, fondamental. Et au XXe siècle, tout s'accélère avec l'électricité. Là, on a des figures clés. Von Neumann pour l'architecture des ordis, Alan Turing, bien sûr.
Turing, le fameux test de Turing.
Oui, et Grace Hopper, Claude Shannon, Margaret Hamilton pour Apollo. Une vraie convergence de talents qui bâtissent sur ses fondations.
Turing, en 1950, il pose cette question un peu folle. Les machines peuvent-elles penser?
Et il propose son test.
Oui, ce test où une machine doit réussir à se faire passer pour un humain dans une conversation écrite. Et apparemment, ChatGPT l'aurait réussi récemment.
Ça donne un peu le vertige. Mais est-ce que ça veut dire qu'il pense? Ah, c'est toute la question. Réussir le test, ça montre une capacité d'imitation incroyable, mais la pensée, la conscience, c'est autre chose. Il faut replacer Turing dans son contexte, celui de la cybernétique.
La cybernétique, qu'est-ce que c'est exactement?
C'est un courant de pensée lancé par Norbert Wiener vers 1948. Il définissait ça comme le contrôle et la communication chez l'animal et la machine. Une science des analogies, quoi.
Ah oui.
C'était un carrefour interdisciplinaire incroyable. Maths, logique, ingénierie, mais aussi physiologie, psycho. L'IA est née là, mais aussi la théorie de l'info, la robotique, les sciences cognitives. Même le mot cyborg vient de là.
Fascinant.
Oui, et Nalis note d'ailleurs dans sa conférence que cette approche très large a eu un peu de mal à prendre en France. Les disciplines sont restées plus séparées. C'est une réflexion intéressante sur le lien entre sciences dures et sciences humaines qu'il apporte.
Bon, revenons aux fondamentaux. Le binaire, comment on transforme le réel, une image, un son, en 0 et 1.
C'est la base de tout. L'ordinateur ne comprend que ça. Deux états, 0 ou 1. On peut imaginer courant passe, courant passe pas. Et les transistors, ces milliards de petits interrupteurs dans les puces, ils matérialisent ça.
Et tout est codé comme ça, le texte, les couleurs.
Absolument tout. Une lettre, c'est une suite de 0 et de 1. L'unité de base, c'est le bit. On les groupe souvent par 8, ça fait un octet, ou byte en anglais. Un octet, ça permet de coder un caractère.
Donc, à majuscule, c'est juste un code?
C'est ça. Par exemple, 1001, le chiffre 4, c'est 10100. Et pour que l'ordi sache que cette suite de chiffres, c'est la lettre A et pas autre chose, on utilise des tables de correspondance, comme la table ASCII.
D'accord. Et pour une image, c'est plus complexe, non? Avec toutes les couleurs?
Oui, on utilise souvent le codage bitmap. Imagine qu'on découpe l'image en une grille de tout petits points, les pixels.
Ah oui, les pixels.
Pour chaque pixel, on va coder sa couleur. Le plus souvent, on mélange trois couleurs: rouge, vert, bleu, RVB. Et on donne une intensité pour chaque couleur. C'est la profondeur de bit.
Plus il y a de bits, plus il y a de couleurs possibles.
Exactement. Si on utilise 8 bits pour chaque couleur primaire, rouge, vert, bleu, ça fait 256 nuances pour chaque. 256 fois 256 fois 256, ça fait déjà plus de 16 millions de couleurs différentes possibles pour un pixel.
16 millions!
Et si on utilise plus de bits, comme 32 bits par pixel, on arrive à des milliards de nuances. Quand tu scannes une photo, le scanner mesure la lumière réfléchie point par point et convertit ça en binaire. L'appareil photo numérique, lui, capte la lumière ambiante et fait pareil.
Et le son ? C'est une onde, une vibration.
Le son fait vibrer la membrane d'un micro, qui crée un signal électrique variable. Pour numériser ça, on fait de l'échantillonnage. On mesure la tension électrique à intervalles très réguliers.
Très, très souvent.
Ah oui.
À quelle fréquence ?
L'Hertz. Et chaque mesure est convertie en nombre binaire. La vidéo, c'est encore plus complexe. Ça combine les images et le son synchronisés. Mais ce qui est fascinant, c'est que toute cette complexité, tout ce qu'on voit, entend, lit sur nos écrans, ça repose sur cette brique élémentaire, 0 ou 1. La source fait un parallèle intéressant.
Ah oui ? Lequel ?
Avec la nature. Le vivant, c'est surtout 4 atomes. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. L'ADN, c'est 4 bases. A, T, G, C. L'imprimerie, pour faire toutes les couleurs, c'est 4 encres. Cyan, magenta, jaune, noir. Le binaire, c'est un peu cette idée d'un alphabet fondamental, minimaliste pour le numérique.
C'est une jolie image. D'accord, on a les 0 et les 1. Mais il faut leur dire quoi faire. C'est là qu'interviennent les algorithmes. C'est quoi simplement un algorithme ?
La source prend une analogie très parlante. La recette de cuisine.
Ah !
Simple et efficace.
Oui.
Un algorithme, c'est juste une suite d'étapes précises, bien ordonnées, pour obtenir un résultat, le plat, à partir d'ingrédients, les données. C'est tout. Mais avec ça, on peut faire des choses incroyablement complexes.
Et pour l'IA, ces recettes ont besoin de beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Les données, le fameux big data, là, les quantités deviennent folles, non ?
Complètement folles. On ne parle plus en kilos ou mégaoctets, comme pour nos fichiers habituels. On parle en gigaoctets, go, milliards, téraoctets, théo, milliers de milliards.
Et après téraoctets, il y a quoi ? J'ai lu des noms étranges.
Oui, pétaoctets, PO, hexaoctets, EO, zétaoctets, ZO, et même iotaoctets, YO. Ça devient difficile à se représenter.
Quelques exemples pour fixer les idées ? Un giga, c'est déjà beaucoup.
Alors, une petite image, quelques dizaines de kilos. Une photo HD non compressée, plusieurs mégas. Une minute de musique en bonne qualité, environ 10 mégas. Une minute de vidéo 4K, ça peut grimper à 375 mégas.
Et le volume total de données créées dans le monde, ça explose.
C'est une explosion exponentielle. La source cite le chiffre de 2 étaoctets créés en 2010.
2 états, déjà énorme.
Passons à 64 étaoctets en 2020 et on prévoit plus de 180 étaoctets par an très bientôt.
180 étaoctets, c'est inimaginable. C'est 180 suivis de combien de zéros ?
21 zéros. Pour essayer de saisir l'échelle, Pierre Delors, cité dans la source, propose une analogie. Si 1 octet égale 1 seconde,
oui.
Alors 1 mégaoctet, soit 1 million de secondes, c'est environ 12 jours. Ça va.
Ok.
1 gigaoctet, 1 milliard de secondes, là on passe à presque 32 ans.
Ah oui, quand même.
Attends, 1 téraoctet, 1000 milliards de secondes, c'est 33 000 ans. On est à l'époque de la préhistoire, des grottes de Lascaux ou Cosquer.
C'est fou.
2 pétaoctets, et on remonte au temps des derniers dinosaures. 1 hexaoctet, c'est 7 fois l'âge de la Terre.
Non.
C'est vertigineux.
Et le zétaoctet ?
1 zétaoctet, donc 1 suivi de 21 zéros. Si c'était des secondes, ça ferait 2300 fois l'âge de l'univers depuis le Big Bang.
J'ai du mal à suivre.
Et on parle de créer 180 comme ça chaque année, bientôt. Ça montre les défis énormes en termes de stockage, de puissance de calcul nécessaire. Et évidemment, d'énergie consommée. Et après les états, il y a le iota. On n'a pas fini.
Ok, donc, des données en quantité astronomique, des algorithmes, les recettes. Mais le cœur du réacteur de l'IA moderne, c'est l'apprentissage, le machine learning. Comment ça marche, apprendre pour une machine ?
Exactement, le machine learning ou apprentissage automatique, c'est là qu'est le grand changement. Le paradigme shift, comme dit la source. Avant, on donnait à l'ordi les données et les règles, l'algorithme, pour qu'il calcule un résultat.
Oui, la programmation classique.
Voilà. Maintenant, avec le ML, on change tout. On donne à la machine les données et les résultats qu'on veut obtenir. Plein d'exemples. Et c'est à elle de découvrir les règles, de trouver la logique cachée, la structure. Cette structure qu'elle trouve, c'est ce qu'on appelle le modèle.
Ah, le fameux modèle. Donc, si je comprends bien, au lieu de lui expliquer comment reconnaître un chat, on lui montre des milliers d'images de chats et de non-chats.
En lui disant ça, c'est chat, ça, c'est pas chat.
Et elle finit par comprendre toute seule ce qui fait un chat.
C'est ça l'idée. Pendant l'entraînement, elle analyse ces millions de 0 et 1 des images. Elle fait des milliards et des milliards de calculs pour trouver des motifs statistiques, des patterns, qui sont fortement corrélés avec l'étiquette chat. Elle ajuste son modèle interne pour que ses prédictions correspondent aux exemples.
Et il y a différentes façons d'apprendre ? Superviser, non superviser ?
Oui, la source distingue trois grands types. 1. L'apprentissage supervisé, c'est le cas le plus courant. On donne les données avec les bonnes réponses, les étiquettes. La machine apprend à classer ou prédire pour de nouvelles données, reconnaissance d'images, de spam.
Ok.
2. L'apprentissage non supervisé, là on donne les données mais sans les réponses. La machine doit trouver seule des structures, des groupes, clusters, par exemple regrouper des clients similaires, détecter des transactions frauduleuses qui sortent de la norme.
Intéressant pour découvrir des choses cachées.
Exactement. 3. L'apprentissage par renforcement. Ici, la machine apprend par essai et erreur. Elle interagit avec un environnement, elle fait une action, elle reçoit une récompense ou une punition. Elle essaye de maximiser ses récompenses. C'est comme ça qu'AlphaGo a appris à jouer au Go.
Et le RLHF de ChatGPT, c'est ça?
C'est une forme de renforcement, oui.
Reinforcement learning from human feedback. Des humains notent les réponses de l'IA et ça sert de signal de récompense pour l'affiner, la rendre plus pertinente, moins toxique. L'étape suivante, c'est l'IA qui apprend à s'auto-corriger. On parle aussi d'auto-superviser où l'IA se crée ses propres exercices. C'est puissant, mais ça demande énormément de calcul.
Et la technologie derrière cet apprentissage, ce sont souvent les réseaux de neurones. Encore un mot qui fait penser au cerveau. L'inspiration est biologique, oui, mais ça reste avant tout un modèle mathématique. Il faut imaginer des couches superposées de neurones artificiels. Chaque neurone est une petite unité de calcul.
Unité simple ?
Relativement simple, oui. Elle reçoit des nombres en entrée, les sorties des neurones de la couche d'avant. Elle leur applique une fonction mathématique et elle envoie le résultat à la couche suivante.
Et le deep learning, l'apprentissage profond, c'est quand il y a beaucoup de couches.
C'est ça. On empile des dizaines, voire des centaines de couches. Cette profondeur permet au réseau d'apprendre des relations et des abstractions de plus en plus complexes dans les données. L'entraînement consiste à ajuster finement les connexions entre tous ces neurones, ce qu'on appelle les poids, pour minimiser l'erreur entre ce que le réseau prédit et ce qu'on attendait.
Et là, la quantité, la qualité des données d'entraînement sont cruciales, j'imagine.
Absolument déterminantes, Sam. C'est le carburant. Sans données massives et variées, même le réseau le plus profond n'apprendra pas grand-chose d'utile.
Reprenons l'exemple du chat. Comment ça marche avec les couches ?
La source cite Yann Olivier qui explique ça bien. La première couche pourrait détecter des choses très simples, des lignes, des bords, des contrastes.
Ok, des éléments basiques.
Voilà. La couche suivante pourrait combiner ces lignes pour détecter des formes simples, un angle droit, un cercle, peut-être une forme qui ressemble à une oreille pointue.
Ah, oui, ça commence à prendre forme.
Une couche, encore après, assemblerait ces formes simples en motifs plus complexes. Un œil, un museau, une patte, jusqu'aux couches finales qui combinent tout ça pour reconnaître le concept global de chat. C'est une hiérarchie de reconnaissance, du simple au complexe, du local au global.
Impressionnant. La source mentionne ResNet 152, 152 couches, et Google Brain qui aurait découvert le chat tout seul.
Oui, en 2012, c'était marquant. Ils ont entraîné un réseau profond sur des millions d'images YouTube sans aucune étiquette, donc non supervisée. Et le réseau a fini par développer un neurone qui réagissait spécifiquement aux images de chat, simplement parce que c'était un motif visuel très fréquent et cohérent dans les données. Il a découvert le concept statistiquement.
Mais alors, est-ce qu'on comprend pourquoi il a décidé que telle image était un chat et pas une autre ?
C'est là que ça se complique. C'est le fameux problème de la boîte noire, la black box.
La boîte noire,
oui. Ah oui. Même si on connaît l'architecture du réseau et tous les poids des connexions, il est souvent extrêmement difficile, voire impossible, d'expliquer pourquoi, pour une entrée donnée, une image, un texte, le réseau a produit cette sortie spécifique. Quelles caractéristiques précises l'ont fait basculer ? C'est opaque. Et ça pose de vraies questions de confiance et d'éthique, surtout quand on utilise ces IA pour des décisions importantes.
On arrive maintenant aux stars du moment, les LLM, Large Language Models, ou MLG en français, modèle de langage à grande échelle. ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, c'est ça.
Exactement. Ce sont des intelligences artificielles spécialisées dans la compréhension et la génération de langage humain. Leur particularité, c'est d'avoir été entraînées sur des volumes de textes absolument gigantesques.
Tout le web ou presque.
une bonne partie du web, des livres numérisés, des articles, des milliards et des milliards de mots.
Et elles apprennent quoi avec tout ça ?
À comprendre le sens ?
C'est plus complexe que ça. La source utilise une analogie parlante, un perroquet extrêmement doué.
Un perroquet ?
Oui, dans le sens où le LLM apprend avant tout les structures statistiques du langage. Il devient incroyablement bon pour prédire le mot suivant le plus probable dans une phrase ou la phrase suivante la plus probable dans un texte. Il n'a pas de compréhension sémantique profonde comme nous, mais il maîtrise les régularités, les associations de mots, les styles.
Donc, quand je lui pose une question, il ne va pas chercher la réponse comme un moteur de recherche ? Non, pas directement. Il génère la réponse mot après mot, ou plutôt token après token, en calculant à chaque étape quelle est la suite la plus plausible statistiquement, compte tenu de la question posée et de l'immense corpus de texte sur lequel il a été entraîné.
Comment ça marche en gros ? Il y a des étapes.
On peut simplifier en trois phases, comme l'explique la source. D'abord, 1. L'apprentissage. Il avale ces quantités massives de textes. 2. L'identification des schémas. Il modélise les relations entre les mots, les concepts. C'est plus profond qu'un simple index de mots. Il utilise des vecteurs numériques pour représenter les mots dans un espace où les sens proches sont proches mathématiquement. Pour ça, il découpe le texte en tokens, des petits bouts de mots. 3. La prédiction. Quand on lui donne une instruction, prompt, il utilise ce modèle pour calculer la probabilité du token suivant le plus pertinent, et ainsi de suite pour construire sa réponse.
Et c'est là qu'on entend parler de milliards de paramètres. GPT-3, 175 milliards. GPT-4, 1760 milliards.
Exactement. Ces paramètres, ce sont en quelque sorte les boutons de réglage interne du modèle, les poids des connexions dans cet immense réseau neuronal spécialisé dans le langage, ils sont ajustés pendant l'entraînement pour capturer toutes ces relations statistiques complexes. Plus il y en a, plus le modèle peut être nuancé, mais plus il est énorme, coûteux à entraîner et gourmand en données. On parle même d'une crise des données à venir. Les IA auront bientôt lu tout ce qui est accessible.
On fait aussi la différence entre modèles open source et propriétaires, c'est important.
Ah oui, très important. Les modèles propriétaires comme GPT-4, Claude d'Anthropic, Gemini de Google sont développés et contrôlés par des entreprises. Leur fonctionnement interne reste souvent une boîte noire.
Et les open source ?
Les modèles open source comme Llama de Meta ou ceux de Mistral AI en France rendent leur architecture et parfois même les poids entraînés publics. Ça permet à la communauté de les étudier, de les modifier, de les utiliser plus librement, même sans connexion Internet. C'est un gros enjeu de transparence, de démocratisation et d'innovation face aux géants technologiques. Mais attention, qu'ils soient ouverts ou fermés, ces LLM ont des défauts bien réels. Les hallucinations. Ils peuvent inventer des informations, des faits, des sources qui semblent plausibles, mais sont complètement faux. Juste parce que statistiquement, ça colle bien.
Ils ne savent pas qu'ils mentent, en fait.
Exactement. Les biais, l'IA. Ils sont entraînés sur du texte humain. Donc, ils absorbent et reproduisent tous nos biais, culturels, sociaux, de genre. Ils peuvent même les amplifier. Les biais, et puis le risque de manipulation ou de censure, surtout pour les modèles fermés. L'entreprise peut choisir d'orienter ou de filtrer les réponses.
Donc, des outils bluffants, c'est sûr. Mais il faut garder un œil critique. Leur impact est déjà énorme. Ça change le travail, la recherche d'infos. Et quel voyage ! Du simple 0 et 1 à ces modèles de langage complexes. On a couvert pas mal de terrain grâce aux éclairages d'Olivier Nalis. Ce qui est frappant, et il le souligne bien, c'est que les progrès fulgurants récents, c'est moins de nouvelles maths révolutionnaires que l'explosion de la puissance de calcul, du stockage de données et de la vitesse des réseaux.
Tout à fait. Et le changement clé à retenir, c'est vraiment ça. Hein. L'IA n'applique plus seulement les règles qu'on lui donne, elle apprend à trouver les règles elle-même à partir des exemples. C'est un changement fondamental. Et Nalis conclut sur une note un peu préoccupante, non ?
Oui, cette idée que l'IA pourrait amplifier les capacités des plus à l'aise, mais dégrader celles des moins performants.
Oui, créer une sorte de fracture intellectuelle ou accentuer les inégalités face au savoir et à la compétence. C'est un vrai défi pour l'éducation, notamment. Comment faire pour que ça tire tout le monde vers le haut ?
Et pour l'avenir, il évoque quoi ?
Deux pistes intéressantes. Les IA hybrides, dites neurosymboliques, qui essaieraient de combiner la force statistique des réseaux de neurones avec la logique et le raisonnement symbolique. Et puis, le développement d'agents intelligents comme Perplexity ou Grok, qui ne se contentent pas de répondre, mais peuvent agir, chercher des infos, planifier des tâches et expliquer un peu leur raisonnement. On va vers des IA plus proactives.
Alors, pour finir, une question ouverte, surtout pour les enseignants qui nous écoutent peut-être. Si ces IA peuvent trouver des motifs si complexes dans les images ou le langage, des choses qu'on ne verrait pas nous-mêmes, que pourraient-elles révéler si on les appliquait aux données de l'apprentissage ?
Ah, c'est une excellente question.
Est-ce qu'elles pourraient repérer des difficultés spécifiques chez un élève ? Des blocages invisibles ? Ou identifier des stratégies pédagogiques qui marchent particulièrement bien dans un certain contexte ? Ou même trouver des liens inattendus entre différentes matières ou compétences ? C'est peut-être là que se trouve une future révolution pédagogique. De quoi méditer ?